Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Claude Dartois est rentré de plein fouet dans le cœur des Français lors du dernier Koh-Lanta diffusé pendant le confinement. Et pourtant, il n'a pas gagné l'aventure. Il ne l'a jamais gagné d'ailleurs en 3 participations. Mais il l'a marqué de son empreinte en terminant 3 fois finaliste. Il est devenu en quelques semaines une personnalité, l'aventurier le plus aimé à la télévision, sans le vouloir, presque par hasard. Résultante d'un alignement des planètes entre un virus qui nous sclérose et un aventurier, sorte de Monsieur Tout-le-Monde transformé en héros par le prisme du petit écran. Son talent, son charisme communicatif et sa bonhomie qui nous rapproche ont fait le reste. Claude Dartois, symbole de Koh-Lanta, mais pas que, athlète aux multiples facettes, il est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Vous allez découvrir l'homme et il est riche. Bonjour Claude.
Bonjour Denis.
C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans Vie d'aventure parce que, à ta manière, tu es un aventurier. Tu as marqué l'histoire de Koh-Lanta, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as toujours eu, depuis ta plus tendre enfance, une âme d'aventurier ?
Déjà, je suis très content que tu aies pensé à moi pour venir un peu raconter un peu mes différentes aventures et un peu ma vie dans ta série, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et oui, effectivement, j'ai toujours eu plus ou moins ce goût d'aventure. J'ai perdu ma mère assez jeune et je partais souvent à la campagne en vacances l'été pendant 2 mois. Et là, j'enfourchais mon VTT et je partais le matin et je revenais l'après-midi. Enfin, je faisais beaucoup de kilomètres un peu à vadrouiller à gauche à droite comme ça. Donc, c'est un peu l'aventure aussi. Je découvrais, moi, citadin, le milieu rural à ma façon. Donc, on peut dire que j'ai toujours été un peu quelqu'un d'aventureux, oui.
Le décès de ta maman alors que tu es encore un tout jeune enfant, est-ce que ça aussi, ça t'a donné envie de t'émanciper, de croquer peut-être la vie encore plus fort ?
Moi, à la maison, j'avais un père qui a 2 générations d'écart avec la mienne. Donc, lui, c'était la génération de travail. Il se levait très tôt, il rentrait tard. Donc, j'étais un peu livré, on va dire, un peu plus à mon propre destin, donc ça m'a permis, oui, d'avoir une liberté assez tôt et de prendre des décisions par moi-même, chose qui est assez rare quand t'as 10, 12, 13 ans.
On entend derrière toi ton deuxième garçon, hein ?
Ouais, il est là, il est avec
le
moi.
Le petit Marceau, il a quel âge ?
Eh ben, il a fait 7 mois récemment, là. Il est vraiment gracieux, il est plein de, j'ai envie de dire, déjà à son âge, d'espièglerie. Quand il te regarde, qu'il te sourit du coin de l'œil avec ses fossettes, tu vois que c'est déjà un malin et que bon, et ça se voit qu'il est heureux, donc je suis le papa le plus comblé.
On reviendra sur ton rôle de père de famille, parce que d'abord, je voudrais qu'on évoque ta première expérience à Koh-Lanta. On est en 2010. Pourquoi déjà ? Décides-tu de t'inscrire au casting de Koh-Lanta ?
Cette année 2009, je m'en souviens très bien, je travaillais et on avait les premières voitures équipées des télévisions dans les Mercedes un peu luxueuses, vu que j'étais chauffeur. J'ai suivi cet épisode-là, je me souviens, c'était l'épisode avec Isabelle, Rodolphe et Patrick, d'ailleurs, qui a fait 2012 avec moi. Je m'étais pris de cette saison et arrivé chez ma sœur en vacances, quand elle n'était pas terminée, ma sœur ne regarde pas du tout la télé. Je lui avais dit non, moi c'est vendredi. Là en ce moment, je suis depuis pas longtemps une émission qui s'appelle Koh-Lanta. Et tu vas voir, il se passe des choses vraiment extraordinaires. Il faut vraiment que je regarde ce qui va se passer. Donc on a regardé avec ma sœur. Et puis évidemment, elle a vu que j'étais vraiment pris dedans. Elle m'a m'a dit, au lieu de t'énerver dans le canapé comme ça, inscris-toi, vas-y, c'est quelque chose qui peut te correspondre. Et je lui ai dit, écoute, je te prends au mot. Toi, t'as une plume littéraire, tu sais mieux formuler que moi les phrases, et je pense que t'es la plus à même à me décrire, alors vas-y.
C'est elle qui a donc écrit ton dossier de candidature.
Oui, c'est elle qui a écrit ma lettre, je l'avoue. Mais je l'ai lu, et quand je l'ai lu, je peux te dire, la première réaction que j'ai eue, c'était... Ouais, elle me connaît, ma sœur, quand même. Et j'aurais pas fait mieux, en fait, parce que c'est vrai qu'elle a réussi à retracer un peu mon parcours en y mettant une touche d'humour qui me correspond également. Et c'était moi, en fait, cette lettre. Et quand on m'a appelé et qu'on m'en a repris l'intitulé de ma lettre, je me suis senti à l'aise avec ça parce que ça me correspondait vraiment. Mais c'est elle, donc, l'effet, c'est elle la déclencheuse de tout ça. Et du fil en aiguille, c'est parce que les étapes sont vraiment y croire. Et... À la fin, je me souviens avoir dit au casting final, est-ce que vous allez me donner une réponse si je suis pris ou pas? Et on m'a dit, non, si t'es pris, on t'appelle, enfin, on t'envoie un message. Si t'es pas pris, on te donne pas de nouvelles. Et je lui ai dit, moi, j'avais prévu un mois de vacances en Thaïlande. Comment je fais? Je pars, alors. Et je me souviens, je suis parti en Thaïlande. Ça faisait quelques jours que j'étais déjà sur place. Et je dis à mon ami, attends, mais je vais peut-être aller voir mes mails parce que, c'est vrai que j'attends quand même une réponse pour une participation à un jeu télé. Et je vais voir le mail et là je vois Claude, dépêche-toi, ça fait deux jours qu'on essaie de te joindre. Si on n'a pas de réponse dans les 24 heures, on sera obligé de prendre un autre candidat. Et là je dis, ah oh là là, j'ai appelé direct et tout. Je dis, je rentre, s'il faut, je rentre tout de suite. Et j'ai courté mes vacances de 15 jours, je suis rentré 15 jours plus tôt. Et de là, je partais pour le Vietnam. Super aventure, ce qui restera gravé à tout jamais.
Finalement, si je comprends bien, si tu es devenu l'un des héros de Koh-Lanta, c'est grâce à ta sœur.
C'est un peu grâce à ma sœur, même beaucoup grâce à elle, oui, parce que, comme je te dis, je pense que la lettre a déjà permis de mettre une curiosité particulière au casteur, que peut-être que si c'est moi qui l'avais faite, je serais passé à la trappe. Donc oui, c'est elle, j'ai envie de dire à 90%, qui a fait le travail.
C'est quoi l'aventure pour toi? L'aventure avec un A majuscule, comment tu pourrais la définir?
Ça peut être une toute petite aventure comme une très grande aventure, peu importe. C'est déjà de se mettre dans une situation où tu n'es pas à l'aise, où tu découvres, que tu ne connais pas. Et c'est dans cette aventure-là et c'est dans cette situation-là que tu vas pouvoir justement voir ta capacité de réaction, d'adaptation. Et c'est ça pour moi l'aventure. Alors ça peut être l'aventure, oui, il y en a qui font des choses extraordinaires, très, très périlleuses et tout, mais parce qu'ils sont déjà passés par des aventures plus petites qui les ont mis, qui les ont confortés dans le fait qu'ils pouvaient s'adapter et forcément accepter des différents défis. Pour moi, l'aventure, voilà, c'est être dans une situation difficile, une situation que tu ne connais pas, et devoir t'adapter et rapidement t'en sortir.
Alors, quand on regarde ton parcours, on voit que tu aimes le trail, que tu aimes la course longue distance. Est-ce que finalement, à travers Koh-Lanta, tu n'as pas trouvé ce savant dosage entre l'aventure et le sport ?
J'ai toujours été quelqu'un amoureux des défis, amoureux des challenges. J'aime faire mal, j'aime me dépasser. Mais clairement, c'est Koh-Lanta qui a été le déclencheur. Je me suis dit, en fait, voilà, des choses extraordinaires, tu peux les faire et il faut les faire parce que c'est à travers ça, en fait, que tu te sens le plus vivant et tu trouves une satisfaction particulière. Et c'est vrai que j'ai commencé à me mettre à la course à pied. Je courais quand j'étais plus jeune, hein. J'avais déjà quand même des bons résultats. Quand j'étais à l'école, on faisait des cross. Je me souviens, j'avais fait le cross du Butte-Chaumont, j'avais fini troisième. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai toujours été à l'aise avec les différents sports. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé dans un seul sport parce que déjà à la maison, j'ai personne qui m'a aiguillé. Et je pense que quand t'es jeune comme ça, c'est... Il te faut un cadre particulier pour pouvoir vraiment faire du sport et faire que ça. Moi, c'était pas le cas. Et donc, Koh-Lanta, ça m'a redonné en fait l'envie. Et maintenant, j'étais suffisamment mûr, je pense, pour accepter et de me lancer dans des nouveaux défis, nouveaux challenges. Et la course à pied, j'ai envie de dire que c'est celle qui est le plus facile, la plus rapide à mettre en place.
Alors ton premier Koh-Lanta, c'est en 2010, tu le disais, au Vietnam. À l'époque, tu as 30 ans, tu es finaliste parce que, et c'est un peu l'histoire de ta vie, tu perds sur l'ultime épreuve. Pour ceux qui ne connaissent pas Koh-Lanta, cette ultime épreuve regroupe les trois derniers aventuriers, les trois derniers rescapés, chacun sur un poteau, et il faut rester debout sur ce poteau le plus longtemps possible. Et c'est celui qui gagne qui est assuré d'être finaliste et qui choisit comme adversaire en finale l'un des deux autres qui est tombé, soit en deuxième, soit en premier. Et là, eh bien, tu ne gagnes pas les poteaux, tu vas en finale, mais tu ne remportes pas Koh-Lanta. À ton avis, pourquoi tu n'as pas gagné Koh-Lanta pour cette première expérience où tu avais déjà montré des compétences hors normes, notamment dans les épreuves, en en gagnant un grand nombre en individuel ?
Je la gagne pas parce que c'est, je suis responsable déjà de pas l'avoir remporté. Mais c'est vrai que c'est un jeu compliqué qui demande aux gens qui ont été éliminés de désigner celui qu'ils veulent voir remporter l'aventure. Et j'ai toujours dit que j'ai été coupable de la frustration de certains. Et j'ai toujours dit aussi, celui qui perd à Koh-Lanta, il est le principal fautif. Eux ont voulu me faire payer, entre guillemets, peut-être leur élimination. Je la perds parce que je gagne pas la dernière épreuve. Il fallait que je la gagne pour m'assurer. Et encore, même en la gagnant, je pense que je la perdais là, 2010, c'est vrai.
Est-ce que tu la perds pas plutôt, Claude ?
Par mon caractère, oui.
Voilà, t'as un caractère entier. Et pour dire les choses avec élégance, parfois, tu n'es pas très diplomate. En tout cas, à cette époque.
Pour moi, c'était pas un jeu. J'étais dans une aventure. Et dans une aventure où tu te fais mal, tu vois, où tu t'investis pour les autres. C'est pas tous les jours, tu joues, on fait un jeu de société, tu bois ton café ou ton thé. Non, là, t'es dans un jeu où tu te lèves pour les autres, tu te fais mal pour les autres. J'ai retourné des milliers de pierres pour ramasser les moules pour les autres. Et je me suis pas senti forcément trop épaulé. Et à un bout d'un moment, quand t'es fatigué, ma diplomatie, elle escalait. Mais, à bout d'un moment, c'est sûr que j'avais moins de tact et je disais les choses un peu plus crûment et blessant, peut-être certains aventuriers. Maintenant, ceux qui me connaissent vraiment dans la vie savent que je suis comme ça. C'est pas quelque chose de méchant venant de moi. Mais voilà, j'ai peut-être été un peu trop dur avec certains. Je connaissais pas le jeu. Je pensais pas qu'il y avait une dimension sociale aussi grande. Moi, c'était l'aventure avant tout, c'était le dépassement et ta capacité d'investissement dans les jeux, sur le camp, qui devait primer. Et c'est pas forcément comme ça que les autres voient le jeu. Moi, j'en ai appris que dans la vie, il faut faire des efforts, ok, il faut aider les gens, tout ce que tu veux, mais tu dois aussi, de temps en temps, penser à toi et moi, finalement, sur ce Koh-Lanta-là, franchement, je me suis investi beaucoup pour les autres. Je sais pas si t'en as mémoire, si t'en te rends compte. Et je me suis dit, des fois, on s'est foutu de ta gueule, au final. Donc, voilà. Après, moi, j'ai pas de regrets sur rien. Tu sais, je suis toujours content de toutes mes aventures. Je suis content de toujours tout ce que je fais parce que j'essaie de le faire du mieux que je peux. Ce qui m'enlève le peu de regrets que tu pourrais avoir quand tu n'obtiens pas ce que tu viens chercher ou la victoire ou je sais pas, le plaisir, j'en prends tout le temps. Donc, si tu veux, j'ai rien senti. Ça m'a fait grandir. Peut-être intérieurement, mais je ne retiens pas une leçon particulière. Ça restait un jeu où il faut s'éliminer les uns les autres. J'essaie d'aller le plus loin possible en essayant de faire le moins de mal possible. Après, tu ne peux pas satisfaire tout finalement. C'est un jeu, tu es obligé d'aller contre des fois tes propres pensées parce que tu ne prends pas les décisions seul non plus. Je n'étais pas le seul décidataire de tout. Donc, il faut de temps en temps essayer d'être plus diplomate, de dire les choses plus calmement, prendre le temps d'écouter les gens aussi. On n'est pas tous du même bois, on n'a pas tous la même faculté, pas tous la même envie. Voilà, on est tous différents, donc il faut essayer d'adapter en fait les situations à chacun, mais c'est compliqué.
Ta deuxième expérience, c'est 2 ans plus tard, pas très loin du Vietnam, cette fois-ci au Cambodge, et l'histoire se répète, puisqu'une nouvelle fois, t'es battu sur les poteaux par celui qui va gagner Koh-Lanta, Bertrand, le pilote d'hélicoptère. Mais c'est dans les épreuves que tu construis ta légende. Est-ce que tu considères que tu es le plus compétiteur des aventuriers de Koh-Lanta depuis 20 ans ?
Je fais partie de ceux qui ont un potentiel le plus large sur les différents types d'épreuves. Donc forcément, je suis difficile à venir chercher parce que déjà, je suis physique, je suis athlétique, j'aime la compétition, J'aime me faire mal. Forcément, ça rajoute beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont forts dans plein de domaines. Peut-être que j'ai mes chances sur tous les styles de jeu, ce qui fait de moi quelqu'un de complet et de difficile à aller chercher. Alors après, j'ai certaines victoires, mais je retiendrai aussi souvent mes deuxièmes places parce que j'ai souvent été deuxième et à pas grand-chose des fois. Et si j'avais pu les transformer en première, je serais beaucoup plus loin dans le... j'aurais mis plus d'écart aux autres.
Claude, en quoi Koh-Lanta t'a ouvert les yeux sur la vie, sur la tienne, mais aussi sur cette existence qui t'a permis de découvrir des contrées très éloignées de notre monde ?
J'ai toujours été quelqu'un qui me suis occupé de moi, mais je sais aussi m'occuper des autres. Ça m'a prouvé ça. Et je sais m'investir pour les autres. Et j'ai créé une famille derrière, donc ça m'a conforté dans le fait que je sois capable de m'occuper d'une famille et d'être responsable. Et ça je pense que ça n'a pas de prix parce que ça te donne une confiance en toi sur le fait que tu peux t'en sortir dans n'importe quelle situation. Je savais déjà pour moi que je m'en sortirais toujours, mais quand tu es responsable d'une famille, c'est plus pareil. Et ben, le fait d'avoir nourri la tribu, le fait d'avoir veillé le feu, le fait d'avoir emmené une équipe avec toi, tout ça te conforte dans l'idée que tu peux être un bon chef de famille. Et aujourd'hui, je suis conforté par rapport à ça. Ensuite, ben, les pays que j'ai visités et forcément les contrées que je suis allé voir, on voit comment les gens vivent, on voit aussi la difficulté qu'ont les uns et les autres. Et il faut être humble par rapport à nous, ce qu'on a. Et aussi savoir s'en satisfaire, même si c'est toujours bien d'avoir de l'ambition, il faut aussi être conscient qu'on a de la chance.
Est-ce que Koh-Lanta t'a permis finalement d'être moins égoïste, moins tourné vers ton petit nombril ?
Probablement, oui, eh bien, évidemment. J'ai toujours pris en fait les décisions et au final, des fois, tu prends une décision pour les autres et il faut aussi laisser les autres prendre leurs propres décisions. Et ça, c'est important. Et dans la famille, il faut laisser de la place et tu ne peux pas être décisionnaire de tout.
Tu rencontres Virginie, la mère de tes deux garçons. D'abord Andrea, qui marche sur tes traces, et puis le jeune Marceau, qui n'a pas encore un an. Finalement, la famille, est-ce que ce n'est pas la plus belle aventure de la vie, même quand on a été trois fois finaliste de Koh-Lanta ?
La famille, c'est l'aventure. Tu disais l'aventure avec un grand A, c'est l'aventure avec un grand A pour le coup. Parce que c'est une bonne pression, mais c'est toujours une pression de vouloir le meilleur pour eux à chaque fois. Et évidemment, la récompense, elle est dans leur sourire, dans les rires, dans la joie. Et souvent, le soir, j'étais seul hein, quand je rentrais chez moi, après le boulot ou quoi que ce soit. T'es jamais seul, grosso modo. Donc maintenant, aujourd'hui, tu recherches l'aventure au dehors du foyer de temps en temps, mais t'es quand même contente d'avoir tous ces gens autour de toi.
Comment réagit Virginie par rapport à ton évolution personnelle, mais ton évolution aussi auprès des gens ? Parce que tu es devenu, en 10 ans, un personnage public reconnu et apprécié.
Virginie, elle vit avec moi, donc elle me connaît par cœur. Et elle n'a jamais été en doute par rapport à ce qu'elle a pu voir à l'écran ou entendre. Moi, elle sait qui je suis, elle a toujours été fière et c'est pour ça qu'elle m'aime aussi. C'est quelqu'un qui me soutiendra toujours. Aujourd'hui, c'est vrai que des fois, je pense que ça lui est pesant de temps en temps. De voir entre guillemets me partager, mais je pense que ça la rend fière d'un autre côté. Donc il faut trouver un juste milieu pour pas qu'elle se sente à part. Et je pense qu'elle en est fière malgré tout. C'est comme moi, je le saurais si c'était elle qui était à ma place.
Imagines-tu un jour partir à l'aventure à 4 avec Virginie, avec Marceau et Andrea, tes deux enfants, tes deux garçons?
Tu sais, Denis, moi, bien sûr que j'aimerais partir à l'aventure avec eux, mais j'aurais peur pour eux, en fait. C'est ça, le truc. Moi, je préfère partir seul parce que ça m'enlève un souci, ça m'enlève une pression de devoir m'occuper d'eux dans une position qui n'est pas forcément des plus confortables. Mais si tu parles d'une aventure, je prends un bateau et on fait un tour du monde ou quoi que ce soit, ce serait différent. Et je ne sais pas si c'est la chose dans laquelle je serais le plus à l'aise parce que... J'aime me sentir en danger, mais j'aime avoir à m'occuper que de moi finalement dans le danger et d'avoir des gens à s'occuper dans une situation compliquée, c'est plus tout de suite la même chose pour moi. Il n'y a plus de plaisir en fait. Ça devient trop stressant. Donc l'aventure, oui, dans plein de choses. Une aventure périlleuse, peut-être pas.
Bon, peut-être avec Andrea, hein, parce que on le voit, ton fils, lui, il est déjà, même quand il joue, le digne successeur de son papa. Hein. Il a envie, lui, d'être le successeur du casse-cou que tu es.
Ben, franchement, moi, je ne lui mets aucune pression. Il fera il fera ce qu'il voudra, comme il pourra et comme il en aura envie. Après, si je peux lui donner ce goût du dépassement, de la découverte, j'en serais ravi. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il m'a vu à Ninja Warrior, il m'a vu sur Koh-Lanta, Fort Boyard, et il aime refaire le jeu dans les parcs ou à la maison. Et voilà, moi je suis tellement protecteur que des fois j'ai pas envie qu'il le fasse parce que j'ai pas envie qu'il se blesse.
Un papa poule. Ouais. Alors on va évidemment revenir sur ta troisième aventure dans Koh-Lanta au Fidji il y a quelques mois qui t'a consacré auprès du grand public. Mais je voudrais d'abord qu'on évoque ton métier parce qu'on imagine quand on te voit un métier au grand air, un métier en tenue de sport. En fait, pas du tout. Costard dans une belle voiture. Chauffeur de maître, ça te vient d'où ?
J'ai fait plein de métiers, hein. Je suis issu quand même de la restauration avant tout, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes à travers un restaurant où je travaillais, qui étaient dans la sécurité, qui travaillaient pour des personnalités et qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'ai commencé donc par arriver dans ce métier-là par une porte un peu dérobée, particulière parce que je suis tout de suite arrivé avec une clientèle haut de gamme et j'ai pas eu à passer dans des sociétés où c'est plus compliqué. Donc j'ai vraiment eu de la chance tout de suite. Après, c'est un métier qui me convient, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens. J'ai fait de la restauration. Si tu n'aimes pas faire plaisir aux gens, tu ne fais pas ce métier-là. Pareil pour le métier de chauffeur. Moi, j'étais content de pouvoir mettre à disposition ma capacité de réaction quand on me demandait quelque chose, ma capacité d'orientation quand on me demandait d'aller à un endroit, ma sympathie, ma bonne humeur journalière. Et c'est quelque chose, je pense, qui ont bien fonctionné. Et j'ai tout de suite eu que des bons retours. J'ai toujours été assez chanceux à travers les clients que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, je suis l'employé d'une seule personne. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est très valorisant quand une personne te donne sa confiance. Et toute cette famille-là m'ont donné leur confiance au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, ils font partie intégrante de la mienne. Donc, je les défendrai comme je défends la mienne. Et je pense que c'est ça, en fait, la loyauté. Et moi, je suis quelqu'un de très loyal et de très, très fidèle. Et donc, c'est un métier qui me convient. Mais c'est un métier qui est difficile. On ne devient pas chauffeur de grande remise maintenant comme on pouvait le devenir il y a 15 ans. Donc...
Moi, je voudrais qu'on revienne maintenant sur ce troisième Koh-Lanta. On est au Fidji. Un Koh-Lanta que tu débutes assez mal dans ta tête. Pour ceux qui ne regardent pas Koh-Lanta, il y a d'un côté d'anciens candidats dont tu fais partie, qu'on appelle les héros. Vous êtes 5. Et puis, de l'autre côté, il y a des nouveaux qui découvrent Koh-Lanta et qui viennent pour la première fois. Et toi, quand tu te rends compte de ça, de cette association entre des nouveaux et des anciens, tu te dis un peu, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Je me trompe pas ?
Oui, bien sûr, c'est exactement ça, Denis. Je pensais partir pour une édition spéciale. Qui dit édition spéciale dit retour d'anciens ou alors arrivée, comme on a pu le voir en 2010, de sportifs, enfin, quelque chose de particulier, mais avec des personnes aguerries qui ont déjà fait l'aventure. Et là, je me retrouve dans une situation un peu délicate parce qu'on est 5. Face à 14 nouveaux, et je me dis que tout de suite je suis en difficulté forcément sur l'écriture du scénario parce que on est en minorité, on arrive après, on intègre leur aventure entre guillemets, je le précise bien parce que certaines étaient très très contentes de nous voir arriver, mais d'autres un peu moins, se voyant un peu voler la vedette. Et donc situation inconfortable, en plus je démarre mal parce que je me qualifie pas sur le premier jeu, je me retrouve en ballotage avec Jessica et Sarah, et je me dis que si je sors sur la deuxième épreuve, j'aurais quasiment loupé tout, je serais venu sans jouer, et serais reparti avec une frustration, je pense, que je n'avais pas connue avant. Donc forcément, je démarre mal et je me dis que ce n'est pas forcément évident la situation dans laquelle on nous a mis.
Pourquoi il y a eu cette adéquation avec le public cette année? Pourquoi cet amour, j'ai pas peur d'employer ce mot, entre toi et les gens qui aiment Koh-Lanta, qui regardent par millions cette aventure chaque vendredi soir?
Ben, je pense réellement qu'il y a déjà un effet déclencheur, c'est l'élimination de Théoura. Tout le monde l'a perçu comme une injustice. Dans un moment où les gens se sentaient en injustice de devoir rester chez eux, bloqués voilà, dans la situation dans laquelle on était.
Par le confinement et le Covid.
Cette injustice-là, voilà, évidemment. Et cette injustice-là, conjuguée à l'injustice de la sortie de Théoura sur ce jeu-là, a monté une frustration énorme au niveau des téléspectateurs. Et voyant que moi, j'étais... Je m'étais mis dans l'optique voilà, de le venger, où j'étais un peu seul. Et les gens se sont remis sur moi, leurs espoirs, et de me voir avancer au fur et à mesure de l'aventure, de m'en sortir, leur a donné aussi l'espoir que pouvait s'en sortir aussi de la situation dans laquelle ils étaient à ce moment-là. J'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment une alchimie entre plein de petits paramètres qui ont fait que je me suis retrouvé dans une position où tous les espoirs des gens étaient posés sur mes épaules, et moi-même le premier, à travers les épisodes de chaque semaine, voyant grandir cette effervescence, je me disais, oula, mais je vais les décevoir parce que je connais le résultat final, moi.
T'as été dépassé un peu par l'émotion populaire que tu as suscitée?
Ouais, parce que c'est un jeu, tu cherches pas ça en final. Quand tu viens là, ça fait plaisir que les gens te plébiscitent et tout, mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, c'était particulier. Après, je sais pas si vraiment je m'en rends compte encore aujourd'hui. Je sais que les gens m'apprécient, je l'ai pu le voir sur mes vacances, etc. Mais et moi, ça reste un peu abstrait encore, parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui idolâtre les gens, qui suis fan d'une personnalité en particulier. Et même si j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui font des choses superbes, je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire non plus, à part avoir survécu pendant 30 jours à une équipe qui voulait me sortir. Mais au-delà de ça, non, je suis content, parce que tant mieux. Si les gens m'apportent de la sympathie, du bonheur, c'est toujours des énergies positives, et tu peux qu'être content.
Est-ce que tu crois, Claude, que cette popularité, elle a été accentuée, sublimée aussi, parce que finalement, alors que tu étais le favori, alors que tu collectionnais les victoires, à l'arrivée, tu as encore une fois perdu sur les poteaux et que tu n'étais pas finaliste?
Je pense que ça aurait pas eu un grand changement. Les gens m'auraient quand même plébiscité si j'avais gagné. Mais c'est vrai que peut-être que ça a rajouté de l'empathie, de se dire, ouais, il a quand même pas de chance. Il a fait tout ce qu'il fait, il gagne pas. Probablement que ça en a rajouté, mais c'est difficile à dire. Il y a des gens en France, je sais pas si des fois on aime pas vraiment non plus les gagnants.
On aime le perdant magnifique, l'exemple type de Raymond Poulidor.
Voilà. Ouais, peut-être c'est ça. On aime peut-être déjà bien on aime moins les personnes qui réussissent, peut-être, je sais pas. Moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'aurais préféré le gagner, parce que je voulais mettre mon nom, plus que d'avoir les sous sur mon compte en banque, mettre mon nom au palmarès, c'est ce qui m'importait le plus. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait tenu à cœur. Bon, après, ça fait 3 fois que je ne le mets pas. Avec tous les retours que j'ai positifs là, j'en trouve satisfaction.
Et oui, 3 fois sur les poteaux, mais jamais gagnant. Alors, cette année, j'ai l'impression que tu as atteint un tel niveau de contrôle et de maîtrise que tu étais capable presque de prendre de la hauteur par rapport aux autres. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé, avec un peu d'humour à l'époque, les leçons de Claude. C'est-à-dire que non seulement tu vivais ton aventure, mais tu te permettais aussi de juger celle des autres lorsque les autres dont je parle n'avaient pas un comportement que tu considères comme digne d'un grand aventurier de Koh-Lanta.
J'étais dans un confort, je pense, psychologique et physique, et qu'on fait que je me suis permis d'être plus libre dans ma parole et dans ma façon de penser, de dire les choses. Ensuite, j'avais rien à perdre finalement. J'étais dans une optique où quoi que je dise, quoi que je fasse, je m'en fichais en fait de la conséquence, parce que je m'estimais dans la raison, et je me sentais fort, clairement.
Et tu étais fort. Alors, Il y a quelque chose qui t'a totalement dépassé, qui a dépassé tout le monde, et moi ça m'a même sidéré, c'est ce qui s'est passé après. Pour ceux qui ne connaissent pas Koh-Lanta, je rappelle que le gagnant, en l'occurrence la gagnante, Nawel, est reparti, comme sur chaque saison, avec 100 000 euros de récompense. Et toi, eh bien, en terminant troisième, tu es reparti bredouille comme tous les autres, avec la satisfaction quand même d'être allé jusqu'à la dernière épreuve. Néanmoins, ça a tellement marqué les téléspectateurs que, sitôt la finale terminée, une cagnotte et même plusieurs cagnottes ont été lancées sur Internet pour essayer de regrouper un maximum d'argent pour que tu puisses, toi aussi, bénéficier de 100 000 euros. Mais c'est complètement dingue de penser à ça, sachant qu'évidemment, avec beaucoup d'élégance, tu as mis un terme à tout ça parce que tu estimais qu'il était absolument impossible qu'on puisse te donner de l'argent comme ça à travers une cagnotte.
Oui, effectivement, il y a eu 252 cagnottes qui ont été ouvertes.
Mais c'est dingue, ça.
Quasiment la plupart avec rien, mais le fait d'avoir fait le geste de l'ouvrir, moi, c'est ça que je retiens surtout. Et au final, oui, ça m'a mis plutôt mal à l'aise parce que j'ai entendu certains dire « Oui, mais tu aurais dû les prendre pour après les redistribuer aux associations. » En fait, moi, j'aime pas qu'on m'emprisonne dans une décision qui n'est pas la mienne ou quelque chose que je n'ai pas choisi. Et ça, en fait, c'est typiquement quelque chose qui me met mal à l'aise parce que tu me mets dans une situation, tu veux me donner de l'argent. J'aime pas recevoir déjà de l'argent de qui que ce soit si c'est pas moi qui ai été le chercher, qui l'ai gagné ou qui l'ai mérité. Ok, l'élan de générosité, il est beau et j'en suis reconnaissant de toutes les personnes qui ont voulu à travers ce geste peut-être m'aider, mais déjà, vos messages, votre soutien, c'était amplement suffisant. En aucun cas, je pouvais accepter financièrement de récupérer de l'argent de quiconque.
Comment le plus célèbre aventurier de la télévision vit aujourd'hui sa notoriété ? Parce que en 2010, et en 2012, ça n'avait rien à voir. C'était sans commune mesure par rapport à l'élan que tu connais depuis la fin de cette saison-là.
Oui, c'est sûr que 2010-2012, les téléspectateurs me connaissaient, j'avais mes partisans, j'avais aussi mes détracteurs. J'ai toujours suscité le chaud et le froid, mais les gens ont toujours reconnu mon investissement. Donc au final, c'était quelque chose qui me satisfaisait amplement. Cette année, c'est vrai que j'ai endossé le rôle de héros. On m'a présenté comme un héros dans une période difficile où les gens ont besoin d'avoir un repère, un héros, ou auraient aimé que je sois leur copain, leur père, leur amant, tout ce que tu veux. On m'a mis une étiquette de quelqu'un de... Je sais pas, de super, et au final tous les gens aujourd'hui ont envie de me faire plaisir ou ont envie de me remercier de leur avoir fait passer cette période difficile beaucoup plus facilement, de leur avoir redonné. Il y en a certains qui m'envoient des messages en me disant tu me motives chaque jour à me dépasser, grâce à toi je me suis remis au sport, merci, je reprends confiance. Tout ça, moi, ça me fait plaisir, c'est sûr. Je le vis assez calmement parce que, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime le partage. Donc quand on m'accoste ou quand on me pose une question, j'essaie toujours de prendre le temps pour les gens. Mais c'est vrai que c'est pas perturbant pour l'instant. On verra si ça perturbe mon patron ou pas. Je sais pas trop encore pour le moment. J'essaie de pas changer mes habitudes. J'essaie de pas changer ma façon de voir les choses. Et je pense que pour le moment, j'ai réussi plutôt bien. Donc voilà, tant que ça reste comme ça, c'est cool. Ça me permet de faire d'autres choses, des aventures. Ça me permet de me faciliter des portes sur certaines choses qui me plaisent. Tant mieux. Maintenant, comme je te l'ai dit, je suis assez calme avec tout ça.
Comment tu profites de cette notoriété incroyable qui est la tienne aujourd'hui, Claude ?
Cette notoriété, j'essaie d'améliorer le quotidien sans que ça change nos habitudes, sans que ça me déstabilise aussi dans la façon que j'ai de voir les choses.
Tu es très sollicité aujourd'hui par des marques, par des gens qui ont envie d'associer ton image à leur entreprise ?
Oui, c'est sûr. Oui, j'ai reçu beaucoup de sollicitations. Je le suis toujours. Je fais un gros tri dans toutes les sollicitations parce que justement, j'ai pas envie qu'on utilise mon image pour tout et pour rien. Donc, oui, l'image aujourd'hui qu'on me colle le plus, c'est les valeurs de dépassement, de respect, d'investissement et donc de courage. Et si les marques pensent qu'ils peuvent m'associer à leur produit, il faut que le produit déjà me corresponde parce que je ne ferai pas tout et n'importe quoi, c'est clairement.
Au niveau de ta vie, ça peut changer beaucoup de choses ?
Moi, je ne pense pas clairement que ça change grand-chose dans ma vie. Je ne suis déjà pas à plaindre dans ma vie de tous les jours. On se débrouille assez bien ici, donc ça peut changer, ça peut l'améliorer. Le changer, je ne pense pas, l'améliorer sans doute.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, l'aventurier de Koh-Lanta, tu as envie de te lancer un défi marquant ? En termes d'aventure, en termes de dépassement de soi, en termes d'engagement sportif.
Bien sûr, ouais, j'ai toujours envie de me trouver un gros défi. Je réfléchis, j'ai plein d'idées, mais la faisabilité après elle est tout autre. Mais
qu'est-ce que tu veux faire ?
Non, mais il y a plein de choses. Alors après, j'ai pas envie de brûler les étapes, j'ai pas envie non plus de me mettre en danger sur un truc idiot parce que j'ai juste envie d'impressionner les gens. C'est pas mon but du tout. Donc moi, j'ai envie déjà de continuer à faire de la course et de voir des distances plus longues. Après, j'ai envie de toucher à d'autres styles d'aventure comme par exemple un rallye, comme une traversée peut-être d'un océan, monter, je sais pas, un sommet. Moi, j'ai tellement de choses qui me donnent envie, c'est compliqué d'en sortir une. Après, j'ai déjà pensé aussi à une traversée à la nage. Il faudrait que je m'entraîne, il faudrait que je le travaille et c'est quelque chose qui prendrait du temps. Et je vais essayer, le plus grand de mes défis, c'est d'essayer d'être le plus présent possible à la maison parce que ça va être compliqué.
Ça veut dire que tu as envie de traverser un océan à la voile, tu as envie de réussir une performance en nageant, tu as envie de courir. Le marathon des sables, par exemple, au Maroc, hein, cette course longue distance en autonomie complète pendant une semaine, ça, c'est quelque chose qui te fait rêver ?
Bien sûr que c'est un objectif qui me plairait, c'est de la course dans l'aventure. C'est une course à étapes, donc elle demande une logistique, c'est quelque chose de merveilleux aussi, donc... Il y a la Diagonale des Fous, il y a tellement de choses.
Sur l'île de la Réunion, la traversée de l'île de la Réunion,
ouais,
par tous les sommets.
Évidemment, j'ai un ami qui l'a fait l'année dernière, il a mis 55 heures. L'objectif est d'abord de terminer avant tout, bien sûr, mais c'est toujours aussi d'essayer de faire une performance à son niveau qui soit honorable. Et Marathon des Sables, c'est une aventure qui me dirait évidemment, qui me plairait beaucoup. Ça, c'est sûr.
Est-ce que tu as envie aussi, peut-être, et là, c'est pas dans l'aventure, mais de t'engager dans la société, un engagement sociétal, pourquoi pas écologique, en profitant de ta notoriété pour mettre en avant des valeurs.
Évidemment, il y a plein de choses qui me tiennent à cœur. Hein. Déjà, tout ce qui entoure le cancer. J'ai ma mère qui est décédée du cancer, j'ai ma grand-mère également. Beaucoup dans ma famille ont succombé de cette maladie. Donc le cancer, c'est une maladie dans laquelle je pourrais m'investir pour les enfants également aussi. Mais j'ai la nature dans laquelle je pourrais... Moi, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Donc pourquoi pas... Évidemment, m'engager un jour sur une association, j'ai encore le temps d'y réfléchir parce que j'ai été sollicité d'ailleurs déjà plein de fois pour plein d'associations et je ne peux pas m'éparpiller, je ne peux pas dire oui à toutes parce que ça me demanderait beaucoup d'investissement et c'est compliqué aujourd'hui de satisfaire tout le monde.
Claude, quand on t'écoute, on sent un homme serein. Une voix calme, posée. Vulgairement, j'ai envie de dire, cette notoriété naissante ne t'a pas fait péter les plombs. Tu gardes les pieds sur terre. C'est la base, c'est le credo de ta vie.
Et oui, Denis, tu me connais, tu m'as connu, j'avais 30, maintenant j'en ai 10 de plus, j'en ai 40. C'est à toi de voir si je suis le même dans l'état d'esprit qu'il y a 10 ans ou pas. C'est toi qui pourras le mieux le juger aussi. Tu m'as vu à travers 3 aventures. Mais je suis quelqu'un qui suis assez pragmatique. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie des étoiles. Moi, mes étoiles à moi, elles sont simples. Ce n'est pas les étoiles des autres. Donc non, je suis quelqu'un assez tranquille avec tout ça.
Est-ce que tu te considères comme un vrai aventurier ?
Je suis un vrai aventurier. mais il me reste beaucoup à faire. Moi, je sais que je le suis, mais...
Il faut le prouver avec d'autres expériences ?
Évidemment, évidemment, parce que l'aventure, je t'ai dit, il y en a des tonnes, des aventures. L'aventure Koh-Lanta, c'est une aventure que tu effectues, mais en toute sécurité. Tu es entouré, tu es protégé, tu as une assistance s'il y a quoi que ce soit qui tourne mal. Les vrais aventuriers, comme je les vois moi, il y a des gens qui ont fait le tour du monde, Mike Horn qui a fait des choses extraordinaires aussi. Ça, c'est, pour moi, c'est des aventuriers d'un autre niveau.
Si mais tu as envie de les rejoindre, tu as envie de te mettre en danger, justement, d'enlever tout ce que Koh-Lanta t'a apporté, c'est-à-dire effectivement ce confort et cette assistance en cas de problème, de te retrouver seul face à ton destin.
Évidemment, maintenant j'ai la famille, donc tu réfléchis différemment. Moi j'ai envie, au fond de moi je sais, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime me mettre en danger, j'ai pas. Mais maintenant, voilà, tu peux pas être égoïste. Les grands aventuriers, dans un sens, ils ont une forme d'égoïsme par rapport à leur entourage. Moi je suis capable de l'avoir. Est-ce que j'ai envie de leur imposer ça en final ? Mm-hmm. C'est ça le truc. Je sais pas si j'en suis capable encore.
Est-ce que tu as envie de revenir sur Koh-Lanta une quatrième fois pour peut-être cette fois-ci, enfin, l'emporter ?
Si je reviens sur Koh-Lanta un jour, Denis, tu sais très bien que c'est pour aller le plus loin possible. Même si je sais que j'ai peu de chances de l'emporter, je viendrai pour montrer aux autres que je suis toujours le meilleur et leur donner tous du fil à retordre, ça c'est clair. Cette année, tu vois, en 2020, je suis pas venu dans l'esprit de le gagner. Je suis devenu dans l'esprit de survivre. Et finalement, j'ai survécu jusqu'au bout. Et au final, si tu viens vraiment avec l'envie de gagner, t'as que très peu de chances de réussir réellement cet objectif. Mais l'envie d'aller le plus loin possible, c'est l'objectif que tout le monde doit avoir à Koh-Lanta parce que c'est celui qui te permet justement d'aller peut-être en finale.
Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ?
Je suis très heureux. On peut toujours l'être plus.
Comment ?
On a souvent toutes les envies et tout ce qu'on veut en ne vieillissant pas. Et en continuant de faire des milliers de choses. Mais non, je suis très heureux. On peut l'être toujours plus. Et il ne faut pas se mettre de barrière dans l'envie d'être encore plus heureux. Mais je suis très heureux.
Le bonheur, c'est avant tout la sérénité personnelle, professionnelle.
Dans la vie, il faut prendre du plaisir. Dans n'importe quel domaine que ce soit, au travail, dans le sport, dans la vie de tous les jours, dans l'échange avec les gens, prendre du plaisir. Et si tu prends du plaisir, tu as déjà, je pense, beaucoup moins de soucis et beaucoup moins de... Donc moins de soucis qui disent forcément plus de bonheur.
Si j'avais la possibilité de te donner une baguette magique, là, tout de suite, quel rêve tu pourrais assouvir ?
Je mettrais Virginie et les enfants à l'abri avec une très belle maison et tout ce qu'eux, ils auraient toujours voulu avoir, un grand jardin, une grande maison, la tranquillité, comme ça au moins derrière, je peux partir faire mes aventures.
Ta famille est à l'abri dans la maison avec le grand jardin. Et toi, tu vas où ? Tu fais quoi ? Avec quel moyen de locomotion ?
Moi, franchement, un tour du monde en course, à pied, en autonomie, tout ça, ça me plairait bien. Ouais. J'aimerais faire un bon tour du monde, peu importe, pas forcément comme il a fait Mike Horn sur l'équateur, sur la ligne de l'équateur, mais voilà, faire un bon tour du monde, vélo, course, à pied et bateau.
Bateau à voile.
Ouais.
Claude, merci infiniment d'avoir été mon invité dans Vie d'aventure. J'ai envie de te dire, ne change rien et ma sentence est irrévocable, comme dans Koh-Lanta.
Eh ben pour une fois, je suis content de l'entendre, cette sentence. Et je te remercie beaucoup, Denis. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les romans d'aventure et de toutes ces personnes qui mettent justement par écrit ce qu'ils ont vécu. Et j'ai vécu beaucoup d'aventures par procuration grâce à eux.
Et je suis vraiment ravi et très fier de t'avoir compté parmi mes invités d'envie d'aventure. Parce que l'aventure, c'est très large et il y a un dénominateur commun. Je crois qu'on le sent à chaque fois, c'est la passion. Et l'envie.
Évidemment.
Merci Claude.
Merci Denis, merci beaucoup.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, N'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.